La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie. Et il lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été relevée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Je vous propose de prier. Seigneur, merci de ta parole et ce matin, vous voulez tous ensemble ouvrir notre cœur, être perméable à ton enseignement, perméable à la grandeur de ton sacrifice. Amen. Il y a 15 jours ou 3 semaines, il y avait le culte des enfants. Et j'ai vu que parmi vous, dès qu'on projetait une photo d'un lieu, vous précipitiez à dire ce que c'était. Alors comme je veux garder le dynamisme au cours de ce culte, quel est ce bâtiment ? Alors c'est un peu plus grand qu'Autour de Pau. Ah ! C'est celui-là. Effectivement, c'est le Panthéon. Vous savez ce que c'est le Panthéon ? C'est là où la République française enterre ses grands hommes et ses grandes femmes. Et moi, dans ma jeunesse, quand j'étais à l'école, ça ne fait pas tellement longtemps quand même, mais chaque année, on était obligé de faire le concours national de la résistance. Alors, ça ne va pas parler pour certains. Et donc, de l'école primaire jusqu'au collège, chaque année, on devait présenter un dossier qui nous faisait pencher un peu sur l'histoire. Et à un moment, moi, j'avais travaillé à l'époque, sur Simone Veil. Et le 1er juillet 2018, Simone Veil est rentrée au Panthéon. Et pour les plus jeunes d'entre vous, Simone Veil est une personne qui a vécu l'horreur, qui a vécu l'assassinat de ses parents devant elle, qui a vécu les camps de concentration, qui est revenue, qui s'est battue et qui a écrit un livre. Et je vais juste vous citer une phrase qui m'a... Il y aura deux extraits. Le premier qui m'a marqué, c'est celui-là. Aujourd'hui, on refait beaucoup l'histoire. On essaye de comprendre pourquoi on n'a pas pu parler. Je crois que ça vaut la peine d'essayer de comprendre pourquoi, mais qu'il ne faut pas refaire l'histoire autrement qu'elle n'a été en disant que c'est parce que les déportés n'ont pas voulu en parler, parce que les déportés ont cherché l'oubli eux-mêmes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il suffit de voir le nombre de rencontres qu'ils ont entre eux. Si nous n'avons pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas voulu nous entendre, parce qu'on n'a pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent à nous tous. Parce que nous gênons, profondément nous gênons. dur et tellement vrai et tellement d'actualité. Plus légèrement, il y a une grande marque automobile qui a eu des grands soucis de problèmes, mais les gens voulaient parler aussi, mais on ne les a pas entendus. Moi, je retiens, c'est insupportable et finalement, on gêne. Et dans nos vies, nous tous, est-ce qu'on est disponible à écouter ou à entendre? Il y a certaines sociétés qui font même des stages pour les managers, pour leur apprendre à accepter ce qu'on peut leur dire. Parce qu'on ne peut pas forcément dire tout ce qu'on a envie de dire. Mais retenons ces gens qui sont revenus, qu'on n'a pas voulu écouter, pas voulu entendre, et finalement qui gênaient. Et le texte d'aujourd'hui est un beau parallèle. Est-ce que la parole était rare? Ou est-ce qu'on n'a pas voulu l'entendre? Je vais vous proposer un petit cheminement ensemble sur une pièce en 5 actes qu'on va parcourir ensemble et sur un petit mot de conclusion avec l'application. Le texte est sans appel et commence par un constat froid. La parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était rare. C'était vrai, c'était l'État d'Israël à l'époque. Et si on peut recaser un peu dans l'Ancien Testament, on l'a même lu tout à l'heure avant les chants, c'est en complète opposition avec tout ce qui se passe avant. Dans les chapitres précédents, Dieu parle directement avec Moïse. Dans Exode 3:10, il va lui dire, comme l'a lu Corinna, « Autour du buisson, je suis là. » Et un peu plus tard, avec Josué, « Jamais je ne t'abandonnerai. » Des contacts forts, des dialogues forts. Mais nous, le texte, c'est « La parole de l'Éternel était rare. » Après Exode, dans la Bible, vous avez les juges, symbolisés par ces écouteurs, parce que le livre des juges, c'est un livre où vous ne verrez pas Dieu parler. Très peu. C'est un temps où on fait ce qu'on veut. Un temps sombre. Un schéma classique. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu Juge, je vais leur résumer en un slide, mathématiquement. C'est quoi les juges? C'est un livre dans lequel c'est toujours la même chose. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les vendit entre les mains de A, roi de B, qui les opprima pendant X années. Ils crièrent à l'Éternel, leur suscita un libérateur, C, fils de D, et il triompha de A, roi de B, et délivra Israël, et le pays fut en repos pendant Y années. Voilà, vous avez... Merci Frédéric, je vous ai fait lire le livre des juges. Mais c'est un cycle comme ça. C'est toujours la même chose, hélas. Mais est-ce que dans nos vies aussi, on n'a pas un cycle comme ça sur lequel on retombe? Dans le texte que je vous ai présenté, une image symbolique, vous avez les deux acteurs de mon déroulé. Élie, alors sans eux, hein. C'est pas Élie le prophète, c'est Élie le grand prêtre. Alors lui, c'est un pro, c'était vraiment un pro, ça fait 40 ans qu'il est grand prêtre. Si son cœur dans Samuel semble vraiment tourner vers Dieu, il a un souci, c'est qu'il a deux fils qui valent rien, c'est vraiment des vauriens, ils ne valent rien. Et on va même le voir par ces deux versets. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché. Et nous sommes dans le temps de l'Ancien Testament. Samuel, littéralement, ce petit garçon, lui, c'est le stagiaire. Vous allez avoir. Vous vous souvenez, dans la Bible, c'est celui dont, effectivement, va être la réponse à la prière de Anne. Et littéralement, Samuel veut dire « Dieu exauce ». Mais ça veut aussi dire que Dieu pouvait répondre dans ces temps-là. Le verset 2 mentionne « Les yeux d'Élie commençaient à faiblir ». Cela ne veut pas dire que Dieu était absent ou muet et que simplement il ne pouvait plus le distinguer. Et est-ce que notre monde actuel n'est pas semblable à Élie? Est-ce que ce matin, nous tous, on ne transforme pas notre incompétence à voir et à entendre Dieu en preuve de son absence et de son silence. Est-ce que dans ce récit, ce n'est pas le monde qui l'est reproché d'être aveugle, mais bien Élie, le prêtre qui lui est censé se tenir en présence de l'Éternel. Et à travers lui, c'est moi qui dois répondre à la question. Lorsque nous ne voyons, ni n'entendons Dieu parler, ni agir dans nos vies autour de nous, ne serait-ce pas nos yeux qui sont infirmes? Car quand Dieu se tait, personne n'est capable de déchiffrer et de donner du sens aux choses. Quand Dieu se tait, plus personne ne peut être appelé sage. Quand Dieu se tait, le monde contemple sa propre folie, angoissé devant tant d'absurdités et de néant. Et le silence de Dieu crée un malaise, celui qui nous entoure et nous rend instables. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui est silencieux. Toute notre vie, nous allons nous entourer de bruit. Nous allons positionner des filtres. Cela va nous éviter de nous positionner dans un chemin vis-à-vis de Dieu. On va tous être suractifs. On va s'entourer d'informations, baigner de flux continu. Tout cela pour éviter de se positionner dans une histoire, donner un sens à nos vies. Et j'étais très surpris, même dans le dernier rapport du GIEC, où on parle de dérèglement climatique, on a même parlé de décideurs. Il y a des gens qui décident pour nous maintenant, vous ne le saviez pas, mais il y a des décideurs. Et moi, dedans, c'est quoi ma part? Si les gens ne peuvent pas se situer dans une histoire, dans un groupe, dans un projet, pour moi, c'est une négation de la vie. Et collectivement, on a une responsabilité. Et je reviens sur une deuxième citation de Simone Veil dans son livre. La mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Ce n'est pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde l'est. Dans l'acte 3 de notre parcours biblique, un espoir naît, ou plutôt une lueur d'espoir. L'espoir est marqué par ce verset. Mais la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Elle brille un peu. Et l'Éternel va parler. Il ne parle pas à Élie. À quoi bon? Élie, je vous l'ai dit, c'est un pro. Ça fait 40 ans qu'il est là. Les choses continuent comme d'habitude. C'est de la tradition. Surtout, ne rien changer. Ne rien bouger. Et c'est le moment où, tout doucement, la foi se transforme en religion. Et même dans le texte, je ne sais pas si vous l'avez noté, il y a un petit détail. Élie était couché à sa place. C'est la sienne. C'est celle où il va tout le temps. Sa place, la sienne. Comme d'habitude. Dieu va appeler le stagiaire. Et vous l'avez noté, ou j'ai oublié de le dire peut-être, dans les acteurs, il y avait effectivement Samuel et Élie, mais il y avait aussi l'Arche de l'Alliance. Il va appeler le stagiaire, qui vit donc à côté de l'Arche de l'Alliance, à côté d'Élie, mais qui ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Et ça m'a interpellé, ce texte aussi, pour certains d'entre nous qui avons à charge le dimanche de parler aux enfants. Qu'est-ce que Dieu dira de Promesse Land? Coucou Mélanie. Si Dieu décide de parler à un de ses enfants, maintenant ou plus tard, est-ce que celui-ci, cet enfant, le reconnaîtra-t-il? Quelle sera sa démarche? Est-ce que toute l'Assemblée ici présente vous sera écoutée? Sommes-nous tous au sein de l'Assemblée des personnes capables d'entendre, d'écouter? Le texte montre de façon explicite que l'appel a lieu 3 fois. Et moi, j'imagine l'enfant qui est couché, qui bondit, qui va vers Élie en courant, mais en le réveillant. Enfant avec une attitude ouverte et une attente. Et Élie, à sa place, à sa position, dans son sommeil, auquel il faudra aussi 3 fois pour qu'il comprenne et dise que oui, c'est Dieu qui parle. Oui, c'est Dieu qui parle. Lui, le stagiaire, présent auprès d'Élie depuis si longtemps, proche de l'Arche de l'Alliance, on vient enfin de lui donner les clés de comprendre, lui donner la sens à la vie. Et on le verra plus tard, le dessein de Dieu. Ce qui est aussi perturbant dans le texte, c'est lorsque Élie explique à Samuel que c'est Dieu, ça n'a pas l'air de lui susciter à Élie une grande joie. Il dormait, on lui dit, et il dit oui, c'est Dieu, et puis il se rendort. Et nous, est-ce qu'on n'est pas blasés aussi? Est-ce qu'on est aussi des Élie qui sommes blasés? Et l'essentiel de cet acte, c'est bien celui-là. C'est que Dieu parle. L'acte 4, c'est la suite du texte. Et la suite du texte, je ne sais pas si vous la connaissez, mais simplement, Dieu va parler à Samuel et va lui expliquer ce qui va se passer. Et que Élie, de par les péchés de son fils, de par le fait qu'il préfère ses fils à Dieu, de par le fait qu'il a péché contre l'Éternel, Élie et sa maison vont être exterminés. Et l'arche de l'Alliance va être prise par les Philistins. Et vous savez, Samuel va le dire à Élie. Quand le lendemain, Élie va se rendre compte que Dieu a parlé à Samuel, il va aller le voir et lui dire « Bon, je dormais hier soir, mais qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Vous imaginez un peu l'embarras de Samuel, d'expliquer à celui à qui il a vécu pendant X temps ce qui va arriver. C'est un premier acte prophétique pas facile. Mais Samuel va honorer Dieu et va le faire. Annoncer la fin de celui qui était à côté. Et finalement, Samuel est devenu comme un anti-Élie, ou plutôt comme un inverse. Samuel, venu de nulle part, ou presque, face aux descendants d'Aaron, entendant l'appel qu'Élie n'entendait pas, grandissant de cette parole qui a condamné Élie. L'image renvoyée par Élie était celle d'un Dieu muet ou absent. Et cela se voyait à travers sa manière de vivre, de servir. Même pas le temps de prendre pour Samuel, de savoir tout ce qui était autour de lui et ce que c'était. Un Dieu muet. L'image renvoyée par Samuel est celle d'un Dieu qui parle et dont la parole est vivante. La fidélité à la parole reçue par Samuel rendait témoignage de la présence de Dieu dans la vie et à travers la présence de Dieu dans le monde. L'acte 5, il continue encore aujourd'hui. Parce que si à l'époque d'Élie, aucun sacrifice possible en cas de péché volontaire, à l'époque de l'Ancien Testament, aujourd'hui, pour chacun de nous, l'acte 5 est en cours parce que Jésus est venu sur terre pour porter nos péchés. Cela nous rend aussi pleinement conscients du caractère transitoire de l'ancienne alliance dans les scènes 1, 2, 3, 4 qu'on vient de voir ensemble, qui était de préparer l'acte 5. Oui, Jésus est venu pour vous, pour moi, pour porter nos péchés. Et ce matin, je devrais avoir en face de moi que des visages réjouis, parce que nous sommes dans un temps de grâce. Alors maintenant que je fais le tour, c'est mieux. Mais c'est ça, cette beauté de l'acte 5 qui n'est encore ouvert. Toutefois, chacun de vous et moi, on doit prendre au sérieux nos recommandations de Dieu et de ne pas nous complaire dans les péchés. Nous nous connaissons aussi. Dans 1 Samuel, les fils d'Élie n'ont pas changé, malgré les remarques de leur père. Dieu nous demande de changer. Et ne pas lutter contre notre péché, c'est mépriser la grâce de Dieu et par bonheur, cet acte 5 est encore ouvert pour vous tous aujourd'hui. Quelques mots de conclusion. Très marqué effectivement par l'histoire de Simone Veil sur l'écoute, l'entente. Très peiné par l'imagination que des gens puissent avoir souffert et qu'on n'ait pas eu le temps ou le courage de les écouter. Et que finalement ces gens gênaient. Je pense que peu de choses ont changé. Et ce texte, pour moi, fait résonner plusieurs points. Le premier, c'est de se poser entre nous le temps qu'on prend vraiment pour consacrer à Dieu. Ou le temps qu'on ne veut pas prendre et sur lequel on s'entoure de bruit pour surtout ne pas penser à Dieu. Prendre son temps avec Dieu. Le deuxième, c'est vous emparer pleinement de l'acte 5 que vous avez tous à vivre c'est que le sacrifice est fait. Dieu a porté vos péchés, mes péchés. Et nous sommes sous sa grâce. Et troisième, j'aurais été maladroit de dire, ne soyez pas des Élie, soyez des Samuel. Je pense que c'est pas là. Je pense que c'est surtout quand d'enlever vos filtres. Et je pense que tous le matin, vous prenez le temps quand vous réveillez, d'aller devant la glace et puis de voir ce que vous voulez vous mettre. Qu'est-ce qu'on va penser de vous? Ben là, Dieu vous demande simplement d'enlever vos filtres. Ce que vous êtes construit au bout des années, construit par une mauvaise expérience, construit par je ne sais quoi. Moi, je vous demande juste de remettre vos filtres à Dieu dans la prière. Vous avez la chance, l'acte 5 est en cours. Amen.